Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Maëlie et Amy, des élèves du lycée professionnel Jean Rostand de la filière MMV, métier de la mode et du vêtement. À l'occasion de la journée des droits des femmes, on va évoquer les inégalités de genre dans le secteur du textile et de la mode au sommaire de cette émission.
Naël et Saïda vont nous parler de la note de l'index d'égalité chez Dior et Cartier. Ensuite, Tess a pu interviewer une employée d'un atelier Hermès.
Pour la suite, Sophie et Sacha ont pu parler avec Elsa Guillon. Evan et Sarah ont eu l'occasion de poser des questions à Coralie Fletti de l'association Fête. Et enfin, nous terminons l'émission avec la chronique de Mélissa sur les stéréotypes de genre dans l'éducation.
Et nous allons commencer par poser les bases avec une explication sur l'index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'index de l'égalité professionnelle a été instauré par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Cet index permet aux entreprises concernées d'évaluer sur 100 points le niveau d'égalité entre les femmes et les hommes en s'appuyant sur les critères suivants.
L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l'écart de taux d'augmentation individuelle, le nombre de salariés augmentés à la suite de leur congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, l'écart de taux de promotion seulement pour les entreprises de plus de 250 salariés. Depuis quand est-il obligatoire de calculer son index d'égalité professionnelle ?
Depuis le 1er mars 2020, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés sont concernées par cette obligation. Une fois calculé, cet index doit être déclaré, puis publié au plus tard le 1er mars suivant la période de référence.
Quelles conséquences en cas de non-déclaration de l'index de l'égalité professionnelle ?
En cas de non-déclaration de l'index d'une entreprise, vous pouvez être redevable d'une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise concernée.
Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir quelles sont les notes des grands groupes de mode.
Alors, Saïda, est-ce que Dior ou Cartier traitent également leurs salariés ?
Bonjour. Oui, effectivement, dans ce thème d'égalité femmes-hommes, dans le domaine du textile, la question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que l'égalité du genre est respectée au sein des 10 plus grandes entreprises et notamment chez Cartier et Dior ? De nombreuses marques très influentes qui ont de très bons résultats communiquent leur index d'égalité comme les deux marques Cartier et Dior qui ont des scores de 94 et 87 sur 100. Mais est-ce que cela est un coup de communication pour se montrer plus engagé ou est-ce un réel engagement des dirigeants ? Malgré ces très hauts scores, elles ne sont pas parfaites. Prenons l'exemple de la mixité au sein des 10 plus hautes rémunérations chez Dior qui a un score de 5 points sur 10, malgré le fait que Dior recense 40% de femmes parmi ses cadres dirigeants. Alors que Cartier obtient un score de 10 sur 10 pour ce même critère, mais a de bons moins résultats à l'écart de la répartition des promotions avec un score de 10 sur 15. Pourtant, la maison Cartier a une bonne vision inclusive et déplace souvent des programmes visant à l'inscrire de façon pérenne l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise. C'est d'ailleurs le cas de plus en plus d'entreprises de plus de 50 salariés qui s'inscrivent dans une démarche de RSE. C'est quoi la RSE ? Responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises sont de plus en plus sensibilisées aux enjeux sociaux de biodiversité ou de discrimination sociale selon l'INSEE. La démarche de RSE modifie réellement les pratiques des entreprises. Faire perdurer l'héritage de la mise à l'honneur de la femme, que ce soit chez Cartier ou Dior, est un objectif réel. La poursuite du progrès de l'égalité femmes-hommes dans les engagements RSE des sociétés et donc au cœur des stratégies chez Dior ou Cartier. Cependant, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes demeurent malgré l'adoption de nouvelles pratiques ou de nouveaux indicateurs. Est-ce que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit-il rester le seul barème dans le monde du travail ? Suffit-il à faire changer les choses ? Est-il perspectible ?
Continuons notre enquête auprès d'une auto-entrepreneur de Nevers qui a pris son envol loin d'ici, aux États-Unis. Tout d'abord, nous excusons Sophie pour son absence. Sacha, c'est à toi.
Oui, tout à fait. On va retrouver Elsa Guillon. Elle est fondatrice du magasin Wham and Spy et créatrice de sa propre marque de vêtements. Elle va nous présenter son parcours à l'étranger et son ressenti sur les inégalités femmes-hommes.
Bonjour Elsa, vous êtes la directrice du magasin Spy de Nevers.
Oui, bonjour à tous les deux.
Pouvez-vous vous présenter, quel est votre parcours professionnel ?
Alors, je m'appelle Elsa Guillon, j'ai 25 ans et j'ai lancé ma marque de vêtements peints et customisés Spy il y a 2 ans, donc en 2022. À propos de mon parcours professionnel, j'ai eu un bac S, ensuite j'ai fait une école de commerce et je suis partie étudier aux États-Unis à Philadelphie et j'ai fait un master en finance.
Pourquoi avoir choisi les États-Unis ?
Parce que je voulais absolument parler anglais. Et je sais que les États-Unis, c'est un peu... c'était un rêve de petite fille. Tout est un peu démesuré là-bas. C'était un peu comme dans les films. Et je voulais absolument découvrir cette nouvelle culture et découvrir un autre pays que la France.
Notre émission de radio traite des inégalités entre les femmes et les hommes dans les secteurs professionnels. Quel est votre ressenti sur la question ?
Alors, c'est un sujet qui est au cœur des discussions, même si je pense qu'on est en train de beaucoup évoluer en France là-dessus. Malgré les efforts qu'on est en train de faire, il y a toujours des inégalités entre les hommes et les femmes. On voit bien qu'il y a toujours un écart de salaire, en général, entre un homme et une femme d'une trentaine et d'une quarantaine d'années. Ça existe toujours, c'est un fait. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, et notamment au niveau de la parité, au niveau des top management dans les entreprises. Je sais que de plus en plus, on essaye de mettre un homme manager et une femme manager. Et en fait, du coup, on peut voir des inégalités dans les deux sens. Par exemple, une femme qui peut-être est moins qualifiée, et c'est un fait, va pouvoir accéder à un top management d'une entreprise alors qu'elle est moins qualifiée parce qu'on a besoin de cette parité homme-femme. Et un homme qui avait les qualifications pour être top manager dans une grande entreprise va se voir un peu court-circuité parce qu'il fallait cette parité homme-femme. Donc je pense qu'en fait, on est en train d'évoluer sur le sujet, mais il y a encore des inégalités, que ce soit avec les femmes ou avec les hommes, ça va dans les deux sens. Il ne faut pas oublier que c'est dans les deux sens.
Avez-vous ressenti des différences entre les deux pays ? Est-ce que vous avez remarqué des différences avec le congé maternité et le plafond de verre entre les deux pays ?
Alors déjà, je pense que le congé maternité aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est une société qui marche au mérite. Donc plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent. Faut être un bosseur. Donc je pense que le congé maternité n'existe pas là-bas parce que en fait, tout le monde sait que si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent. Donc les femmes ne prennent pas de congé maternité.
Avez-vous déjà vécu une inégalité dans votre parcours professionnel ?
Alors c'est une bonne question et j'ai réfléchi là pendant les 5 petites minutes juste avant et je crois pas avoir été confrontée une fois à ça. J'ai eu de la chance, je touche du bois et pour l'instant ça s'est pas présenté.
on souhaite du coup que ça ne vous arrive jamais. Du coup, quels sont vos projets professionnels pour la suite ?
Alors j'ai plein de nouveaux projets. Je suis en train de monter un deuxième business sur Paris. J'ouvre mon propre concept store de créateurs. Ça va être un mix entre un showroom de créateurs et une galerie d'art et une scène pour les performeurs, les DJ, les tatoueurs, etc. J'ouvre ça en mars prochain à Paris. C'est mon nouveau petit bébé, mon nouveau petit projet. Je garde Spy à côté, qui est ma marque de vêtements. Et il y aura Spy dans le concept store. Mais on va dire qu'on monte à la capitale, on voit les choses en beaucoup plus grand. Et c'est moi qui vais gérer les artistes et les créateurs. Et c'est ce sur quoi je tends à faire sur le long terme, en fait.
Alors, est-ce que la mode est un rêve de petite fille pour vous ?
Alors non, pas du tout. J'étais pas du tout à fond dans la mode quand j'étais petite. Je peignais beaucoup de tableaux. Et en fait, je me suis découverte petit à petit. Comme je vous ai dit au début, j'ai un master en finance. J'ai travaillé dans le BTP, donc j'ai fait les égouts à Londres, etc., en finance. Ensuite, je suis passée dans le marketing. J'ai été business developer dans un cabinet d'avocats. Et en fait, quand je suis rentrée en France après les États-Unis, j'ai eu un déclic. Je suis passée des États-Unis à Nevers, retour chez mes parents, un petit retour à zéro. Et moi, j'ai toujours voulu faire une école d'art. Et je me suis dit, pourquoi pas peindre sur les vêtements ? Et avec les années, en fait, mon style s'est affirmé et voilà, me voilà dans la mode, alors qu'au début, j'étais dans le BTP et en finance. Donc, c'était un gros changement de carrière à 360 et je ne regrette pas. Et ça me plaît et je travaille à mon compte maintenant. Et je peux dire un petit mot sur les inégalités, c'est que moi, du coup, je travaille à mon compte. Donc, je fais ce que je veux et je n'aurai pas de problème d'inégalité à proprement parler parce que je suis mon propre boss et c'est toute là la beauté de l'entrepreneuriat, en fait.
On vous souhaite le meilleur pour la suite et...
Merci d'être venu.
Merci à vous deux.
Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Spy, S-P-Y-E, sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram et son site internet.
Merci Sacha. Maintenant, nous retrouvons Tess, qui a interviewé l'employé d'un atelier qui élabore des pièces de maroquinerie pour la marque Hermès.
Oui, effectivement, on va retrouver Mélodine, l'occasion d'évoquer beaucoup de choses comme ses projets. Mais on commence par son parcours professionnel.
Bonjour Mélo, merci de m'accorder plusieurs minutes pour répondre à mes questions. Est-ce que tu peux raconter ton parcours professionnel ?
Alors, mon parcours professionnel, comme je disais, comme je suis jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je viens de sortir tout juste de l'école. Donc, j'ai juste, pendant mes études, travaillé à côté en restauration et en garde d'enfants pendant 2 ans. Et là, maintenant que j'ai fini mon BTS depuis le mois de novembre, je suis en CDI dans une boîte qui s'appelle Tequila, qui fabrique du prêt-à-porter Hermès.
D'accord. Est-ce que c'était difficile de trouver un travail dans ce domaine ?
C'était pas le domaine en soi qui était difficile, parce qu'en plus je suis sur Paris, donc il y a beaucoup de demandes en couture, etc. Ce qui était difficile, c'était mon âge, et en fait j'avais pas d'expérience vu que je sortais de l'école. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, surtout en couture, qui veulent pas de petits jeunes, ils ont besoin d'expérience de minimum 4-5 ans. Et donc ça, c'était assez compliqué pour trouver, mais... Hermès, dans cette boîte, ils sont assez ouverts sur ça et justement, ils font en sorte de prendre des jeunes pour les former. Donc ça, c'était assez cool.
Quelles étaient tes ambitions ?
Je voulais absolument apprendre un maximum dans la couture, dans plein de domaines différents, tels que la machine, la coupe. Le modélisme, tout ça, je voulais apprendre aussi à travailler plein de matières différentes, le tissu, la soie, la dentelle, le cuir. Donc j'ai cherché vraiment dans toutes les sortes et Hermès, justement, il travaille le cuir que je ne connaissais pas, du coup, je ne savais pas le travailler. Donc j'ai adoré apprendre à travailler le cuir et j'ai appris à faire des points de main, à travailler beaucoup à la main aussi. Et donc ça, c'était vraiment très très intéressant et très enrichissant à travailler.
Ensuite, t'as déjà été témoin d'actes sexistes ?
Non. Non, non, dans ma boîte, tout le monde est à pied d'égalité. Non, c'est vraiment, il n'y a aucun sexisme.
Peux-tu nous dire les avantages de ton métier ?
Déjà, c'est assez riche en termes de... on a beaucoup de produits différents, tout, etc. Après c'est du travail à la chaîne, donc c'est à la fois un avantage et à la fois c'est un inconvénient. Un avantage parce que du coup quand on sait pas trop manier, faire le mouvement de main et tout, à la chaîne on apprend à le faire vite et bien, donc très vite on sait faire, on a acquis des savoir-faire. Mais c'est aussi un inconvénient parce que le à la chaîne c'est assez pénible à tout en faire le même mouvement. Toute la journée, on peut faire des fois, en une journée, on fait 100 ou 200 fois le même geste. Et donc ça, c'est assez contraignant, ouais. Ça fait mal, on a plus souvent des problèmes aux mains, etc.
D'accord. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu préfères à ton travail ?
Ce que je préfère Ça va être un peu bête, mais ce que j'adore, c'est juste apprendre. J'adore qu'on me montre de nouvelles choses à faire. Au début, c'est difficile tout le temps parce que forcément, je ne sais pas faire. Mais à force de travail, j'y arrive et j'adore voir le résultat à la fin. Et je fais de plus en plus de grosses pièces. À la fin, je vais faire carrément le vêtement complet. Et ça, c'est super de voir à la fin ce qu'on arrive à produire. Et en plus, là, c'est du Hermès. Donc, te dire que c'est un vêtement tellement de haute qualité, que ça va être vendu, que c'est toi qui l'as fait, tu vois, c'est super.
Est-ce que tu aimes le moins ?
Ce que j'aime le moins, du coup, c'est le travail un peu à la chaîne, en mode, faut tout le temps faire la même chose. Alors, ça, c'est un peu pénible. Mais ça va. Et si j'aime pas trop aussi, c'est pas créatif. On te donne telle chose à faire, t'es obligé de le faire. Moi, j'aime bien, je suis quelqu'un de très créatif, donc j'aime bien faire moi-même le projet de A à Z, le dessin, enfin inventer, faire le dessin, les prototypes, tout ça. Mais là, malheureusement, c'est pas nous qui choisissons. Donc ça, c'est aussi un truc que j'aime moins. J'aime pas trop, mais sinon, c'est très bien.
Tu te sens à l'aise à ton travail ?
Oui, franchement, je suis entourée de personnes incroyables, elles sont super. Je suis très bien entourée pour apprendre. J'ai eu des très bons formateurs. Et toutes les personnes sont très très sympathiques. Ils sont toujours là prêts à t'aider. Même s'ils sont occupés, tu vas leur demander. Et comme je te disais tout à l'heure, on est tous à la même échelle. Donc il n'y a personne qui prend quelqu'un d'autre de haut. et ça c'est super.
Quelle est la relation entre les employés et puis le patron?
Le patron, il est très 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 sympa, mais c'est un patron, donc forcément, il doit être très souvent strict. Il doit faire comprendre que c'est lui quand même qui décide, qu'il y a des choses à faire et pas faire. Donc ça, il est un peu strict. Forcément, c'est comme tous les patrons. Mais sinon, il est super super sympa. Et le chef d'atelier, il est pareil, il est vraiment très sympa. Lui, c'est en plus lui, on le voit plus souvent. Donc forcément, vu qu'il est tout le temps dans l'atelier, c'est plus simple de lui parler, etc. Mais si t'as un problème, il va venir, il va t'aider. Il y a aucun souci. Des fois, on peut même le faire pendant les pauses rigoler ensemble. Non, franchement, même les patrons, ils sont super.
Est-ce que tu as énormément de travail ?
Énormément. Ça, vu que c'est par commande, on va dire que ça dépend des périodes. La période septembre à, on va dire, ouais, fin janvier, on fait les vêtements printemps-été. Donc là, il y a moins de commandes, donc c'est plus calme. Mais après, là, on rentre dans la période automne-hiver, enfin, dans la collection automne-hiver. Et du coup, là, il y a beaucoup plus de travail. Donc, Non, c'est pas difficile, mais il faut aller plus vite. Il y a une plus grosse cadence.
Est-ce que tu as des congés maternité à ton entreprise ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est quelque chose de très important. Donc, on a des congés maternité.
Y a-t-il plus de femmes que d'hommes, ou le contraire ?
Alors, il y a plus de femmes, mais ça se joue à 2-3 personnes près. Il doit y avoir une bonne vingtaine d'hommes et on doit être 25 femmes, je dirais. Donc, oui, il y a plus de femmes, mais franchement, ça se joue à peu, quoi. Il y a autant d'hommes que de femmes, pratiquement.
Enfin, comment te sens-tu quand tu pratiques ce métier ?
J'adore. Franchement, c'est un rêve. C'est incroyable de travailler la couture, de faire des vêtements. Puis en plus, là, d'être dans une grosse boîte, c'est incroyable.
Est-ce que tu pourrais définir la mode d'aujourd'hui ?
Oh là, la mode d'aujourd'hui, c'est assez varié quand même. La mode d'aujourd'hui, ça dépend de ta classe sociale, ça dépend de tes goûts tout court. Il y a tellement de choix maintenant. Mais c'est ça que j'aime aussi dans la mode, c'est que tu as énormément de variations, de choix, de types de vêtements. Donc je sais pas trop comment le décrire. Les vêtements d'aujourd'hui, surtout que ça change très souvent, la mode, ça change tout le temps. Mais j'adore voir l'évolution, voir les changements, voir les défilés, tout ça.
Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre, généralement ?
Mon temps libre ?
Oui.
Avant, c'était des trucs un peu basiques, lecture, dessin. Mais là, depuis peu, je me suis mise dans un projet professionnel de couture pour être à côté de ce que je fais maintenant. Je suis en train de travailler pour ouvrir une boutique en ligne de vêtements pour bébés que je ferai moi-même, vêtements et accessoires hein, que je vais coudre en tissu écologique et bio. Donc j'ai fait des recherches de fournisseurs, etc. Ce sera avec des tissus comme du coton bio, de l'eucalyptus, car j'ai travaillé sur les tissus écologiques pour mon BTS de mode. Et donc, j'ai voulu faire un projet de mon côté professionnel sur ça. Et donc, voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur ma boutique en ligne. Et ça, petit à petit, ça se fait. Donc, c'est ce que je fais en ce moment, beaucoup pendant mes temps libres.
Merci encore de m'avoir accordé ton temps pour répondre à mes questions.
Merci Tess. Et maintenant, on retrouve Evan et Sarah qui ont interviewé Coralie Fletti de l'association FETE.
Effectivement, nous avons eu la chance de parler à Coralie Fletti qui est chargée de mission pour l'association FETE. FETE, ça veut dire Femmes Égalité Emploi. C'est une association qui a pour mission d'accompagner les entreprises pour les aider à lutter contre les discriminations qui mènent aussi à des actions de sensibilisation dans les lycées.
Avec elle, nous avons pu aborder différents sujets. Nous avons parlé des inégalités visibles dans les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, notamment du plafond de verre et plancher collant.
Aussi de l'amalgame qu'on fait entre compétences professionnelles et qualités naturelles pour certains métiers généralement occupés par des femmes.
Nous avons abordé les différentes discriminations rencontrées lors de ces visites en entreprise, mais aussi les discriminations présentes dans les métiers de la mode, et finalement l'index d'égalité professionnelle.
Alors, je suis chargée de projet pour la SIC FET, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc mon travail consiste actuellement à rencontrer soit des directions d'entreprise, soit des délégués syndicaux ou délégués syndicales, ou les deux, direction et on va simplifier en disant représentant des salariés, pour traiter et parler d'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 50 salariés. L'objectif, c'est de les aider à se mettre en conformité avec la législation et qu'ils puissent avoir idéalement un accord égalité ou un plan d'action qui porte sur l'égalité professionnelle afin que l'entreprise puisse avancer sur ce sujet-là et réduire, voire anéantir, effacer les discriminations liées au sexe.
D'accord. Et donc, vous, personnellement, quel est votre rôle dedans?
Eh bien, je suis chargée de projet, en fait, dans la société coopérative.
Dans votre rôle et dans vos activités, quelles sont les discriminations qui peuvent toucher les femmes dans les entreprises de mode?
Alors, pour les entreprises de mode, je n'en ai actuellement pas accompagné. En revanche, de par le nombre d'entreprises que j'ai pu accompagner sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand Est principalement, je fais toujours les mêmes constats, à savoir moins de femmes dans les postes à responsabilité. C'est ce qu'on appelle le plafond vert, où on se rend compte vraiment que les femmes ont des difficultés à accéder à des postes à responsabilité, y compris dans des entreprises qui peuvent être très féminisées. On va souvent avoir proportionnellement à la présence des hommes ou des femmes, davantage d'hommes représentés sur les fonctions à responsabilité. Au niveau des différences que je peux constater, outre la difficulté à accéder à des postes à responsabilité, c'est qu'on va avoir aussi une concentration assez forte des femmes dans les niveaux les plus bas. Alors, c'est-à-dire que au sein même des catégories professionnelles, on en a généralement quatre qui se dessinent. On a la catégorie ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre, et du coup on voit que les femmes, même si par exemple admettons qu'elles sont dans une petite catégorie, ce qu'on appelle la catégorie ouvrier, et ben elles vont être concentrées à l'intérieur même de cette catégorie sur les plus petits échelons ou sur les métiers qui sont les moins rémunérateurs, et elles vont être beaucoup plus concentrées que les hommes.
D'accord.
Alors, il y a quelques exceptions comme la métallurgie où on va avoir davantage d'hommes au niveau des ouvriers, mais c'est parce que en fait les postes qui sont proposés sont assez filles. Historiquement, en fait, on avait peu de femmes dans ces secteurs-là. Mais si on va même dans ce secteur-là, on va s'apercevoir que les femmes, elles vont être moins présentes chez les cadres, etc. Elles vont rester sur les plus petits niveaux. Comparées aux hommes qui seront chez les cadres, elles vont rester sur les petits niveaux des cadres et elles vont avoir du mal à évoluer. Donc, nous, on appelle ce phénomène le plafond vert, celui que je viens de vous expliquer. Et quand on voit vraiment que les femmes, en fait, elles sont toutes concentrées sur les plus petits niveaux, on appelle ça un peu le plancher collant aussi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une catégorie, elles ont des difficultés à évoluer. Okay. Alors, ça en lien avec la segmentation des métiers, c'est-à-dire que il y a des métiers qui sont dans leur représentation. Ils ont une image, on va dire, plutôt féminine ou plutôt masculine. Et ces métiers-là, du coup, qui vont attirer davantage de femmes, qui vont être occupés davantage par les femmes, on se rend compte qu'ils sont moins valorisés. On se rend compte que, par exemple, il y a des métiers qui demandent de la minutie, des métiers qui vont demander d'avoir un bon relationnel. Ça va être des métiers, en fait, où on va avoir une faible rémunération. Alors, pas toujours, hein, des fois, on peut avoir une meilleure rémunération, mais on se rend compte qu'en fait, ce sont des qualités, en fait, et pas des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on les considère, la minutie, l'empathie, on va plutôt projeter ça sur une candidate, et finalement, ça va être plutôt des qualités que des compétences.
D'accord.
Et du coup, dans le monde du travail, on rémunère les compétences. Donc l'idée, c'est vraiment de faire comprendre que l'empathie, c'est une compétence de communication, en fait. C'est un savoir-être nécessaire pour certains métiers, pour savoir communiquer. Comme la minutie. C'est un effort, en fait, qui n'est pas visible. Comme, par exemple, toutes les personnels qui travaillent à la qualité, on leur demande un effort de concentration vraiment fort et important sur des temps longs. C'est pas forcément reconnu parce que il faut juste regarder, on va nous dire. À l'inverse, des métiers qui ont une image plus masculine vont être parfois mieux rémunérés parce que on va projeter sur ces métiers de la technicité ou de la pénibilité, parce qu'on va dire ah ben c'est quand même très lourd ou c'est très salissant. En fait, l'effort physique, il est visible et du coup il est plus facilement rémunéré. Donc on se rend compte en fait que la manière dont certains métiers ont été classés à la base dans les conventions collectives, ben il y a des choses qui échappent et c'est généralement, le plus souvent en défaveur des femmes.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que j'ai essayé de vous décrire.
Oh, si, vous inquiétez pas.
Donc, sur ça, en fait, là, c'est là où je vois le plus de différence. Bien évidemment, il reste, il ne faut pas s'en cacher, que la grossesse, c'est un facteur de discrimination important. Ça fait peur à certaines entreprises parce que forcément on se dit qu'il va y avoir du changement, que la personne va partir en congé de maternité et ça peut être vraiment comme tout changement en fait, ça peut amener certaines craintes de déstabiliser un service ou autre. Et on se rend compte par exemple dans des structures ou des entreprises qui font le choix de ne pas remplacer une personne qui part en congé de maternité, ça peut avoir des conséquences aussi sur l'équipe. C'est-à-dire que quand la personne revient, si par exemple c'est sa première grossesse, bon, il n'y aura peut-être pas de répercussions, mais si c'est sa deuxième ou troisième grossesse et que les personnes ne sont pas remplacées, du coup ça amène une surcharge de travail aux autres collègues, qu'elles soient féminines ou que ce soit des hommes, hein. Et du coup il y a dans certaines entreprises que j'ai pu accompagner, on se rend compte c'est les délégués syndicaux qui nous disent que du coup ça amène une mauvaise ambiance et que la personne du coup elle se sent c'est comme si on lui reprochait d'être partie en congé de maternité parce que du coup, les autres ont dû absorber la surcharge de travail. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui, oui.
Par exemple, sur les femmes qui travaillent à temps partiel les mercredis, là aussi, ça peut être source de tension ou de jalousie. C'est-à-dire que les hommes vont dire, bah, les femmes, elles peuvent partir, il n'y a pas de problème, elles, on leur accorde une diminution de leur temps de travail, alors que nous, c'est très mal vu si on fait cette demande.
D'accord.
Donc autour des questions de la grossesse, de la parentalité, on sent que ça repose beaucoup sur les épaules des femmes, et c'est aussi ça qui peut les empêcher d'accéder à des postes à responsabilité. On voit aussi, par exemple, chez les cadres, hein, que les demandes de travail à temps partiel ne vont pas être suivies d'un allègement de la charge de travail. C'est-à-dire qu'on rencontre des cadres qui nous disent bah, « Moi, j'ai fait le choix de travailler à temps partiel parce que j'ai besoin, par exemple, d'avoir mes mercredis après-midi ou mes mercredis. Mais le travail hein, que je faisais sur 5 jours, eh ben maintenant, je fais exactement le même travail sur 4 jours et demi. »
D'accord.
Avec une rémunération qui est moindre, parce que comme elle travaille moins en temps, ça peut influer sur la rémunération et sur les conditions de travail. Donc il y a vraiment des choses comme ça où on se rend compte que les femmes et les hommes, bah, du coup, ils sont pas sur un pied d'égalité.
Okay.
Quels stéréotypes peut-on rencontrer dans les entreprises du secteur de la mode ?
Les stéréotypes dans le secteur de la mode, je suis pas une spécialiste de la question, mais je pense qu'il y en a plein. Je sais pas, vous percevez lesquels ?
Bah, nous, on perçoit le fait que ce soit beaucoup de femmes dans les métiers de la mode, notamment dans les métiers de couture et de réalisation. Dans la globalité.
Au niveau des personnes qui sont connues.
Oui, bah, j'ai plus tendance à dire que ce soit les hommes. Bah, il y a très peu de femmes qui sont connues quand même, hein, oui. Comparé aux hommes.
Oui.
Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est que effectivement, les grandes maisons, c'est essentiellement des hommes qui sont mis en avant.
C'est vrai.
Après, au niveau de la mode, effectivement, il y a plein de... on peut s'interroger sur les conditions de travail des mannequins.
Oui.
Celle qui défile, hein, il y a pas mal de questionnements par rapport à leurs conditions de travail, leur contrat, leur physique aussi, avec des contrats extrêmement... on entend régulièrement qu'elles sont soumises à une grosse, une énorme pression.
Il
y a des choses... Hein. Oui, je pense qu'au niveau de la mode, alors après, ça dépend sur quel métier on est, si... parce que c'est vraiment très, très varié et qu'on peut avoir vraiment les projecteurs... comme je le disais, sur des grandes maisons, sur des événements phares qui sont très médiatisés.
C'est vrai.
Et qu'il y a tout un pan de métiers, peut-être qu'on appelle plus vulgairement, je ne sais pas si c'est le bon terme, les petites mains, où on n'a pas du tout de visibilité sur leur travail en fait.
Oui, 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 vraiment. Oui. Ensuite, la prochaine question.
Qu'en pensez-vous de l'index professionnel d'égalité entre les femmes et les hommes ?
Ah, alors ça fait l'objet d'un travail important de mon côté. C'est-à-dire que quand je vais dans les entreprises, j'analyse deux choses. J'analyse ce qu'on appelle la base de données économiques et sociales et environnementales, mais juste sur la partie égalité professionnelle, puisque toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent en fait avoir une base de données où on va consigner les différents, par exemple, ces types de contrats, CDD, CDI, les temps de travail des femmes, des hommes, temps partiel, etc., voir où ils sont positionnés sur les coefficients, les catégories professionnelles, s'il y a plus de départs d'hommes ou de femmes, d'entrées, etc. Et on va tout comparer, le nombre d'heures de formation chez les femmes, chez les hommes, etc. Donc ça, c'est la base de données économiques, sociales et environnementales. Donc j'analyse ça. Et j'analyse aussi l'index de l'égalité, puisque l'index de l'égalité est constitué à partir de 4 ou 5 tableaux. Et ces tableaux, en fait, comportent une note qui vont s'additionner pour donner, on va dire, un résultat sur 100.
D'accord.
Et du coup, je vais être en charge d'analyser chaque tableau. Et pour avoir analysé bon nombre d'index de l'égalité, la note finale n'est pas révélatrice de la situation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles dans cet outil, dans le calcul, qui nécessitent en fait de ne pas que se concentrer sur la note, mais d'aller vraiment regarder les tableaux pour voir ce que les données nous disent. Parce que la note est très réductrice et que dans certains cas, on peut avoir une très bonne note, mais moi je me rends compte que la très bonne note ne correspond pas à la situation de l'entreprise parce qu'en fait, au niveau des tableaux, on peut avoir des... Alors c'est un peu compliqué, mais on va avoir quand il y a une discrimination ou un écart, on va appeler plutôt ça un écart entre hommes et femmes sur une... catégorie professionnelle à tranche d'âge égale, on va par exemple perdre des points, donc on va avoir un moins. Et quand ça va être pour les hommes, on va avoir la même chose, un écart, mais par exemple il va être en plus. Et du coup, on va avoir une annulation des écarts. Parce que c'est pas que des écarts en défaveur des femmes ou pas que des écarts en défaveur des hommes. Donc du coup, c'est comme si ça s'annulait en disant, ben, en fait, il n'y a pas de discrimination par rapport au sexe, puisque des fois, il y a des écarts en faveur des femmes et des fois, il y a des écarts en faveur des hommes. Mais du coup, les écarts sont quand même là et c'est dommage hein, parce que du coup, sur la note finale, on ne va pas les retrouver. Et du coup, on va pas essayer de les corriger. J'essaye de simplifier les choses, mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que la note globale qu'on obtient, finalement, ne nous permet pas de savoir si la situation est bonne ou pas. En revanche, c'est un très bon outil puisqu'il porte essentiellement sur les rémunérations et c'est des données qu'on a du mal à avoir dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises produisent... se calculent, doivent calculer de la même façon. Donc, on a une règle identique pour tout le monde. Après, il y a juste au niveau de la lecture de la note et de l'analyse où on doit être vigilant pour pas passer à côté, justement, d'écarts inexpliqués.
D'accord. Bah, de notre côté, on n'a pas d'autres questions à vous poser. Mais si vous avez des choses à ajouter...
J'ai pas spécialement de choses à ajouter. C'est peut-être de dire que heureusement aujourd'hui les écarts qui peuvent constituer des discriminations envers les femmes sont pas volontaires. C'est-à-dire que moi la majorité des entreprises que je rencontre n'en ont pas conscience parce qu'elles n'ont pas forcément fait de diagnostic égalité. Que je cherche à faire quand j'analyse les données. Et du coup, certaines sont vraiment surprises des résultats parce qu'elles appliquent des grilles conventionnelles par exemple, et elles ne se rendent pas compte que ces grilles parfois pénalisent les femmes. Donc on n'est pas forcément dans une société qui veut nuire aux femmes et qui les empêchent volontairement d'accéder à des postes bien rémunérés. Mais on est dans de multiples facteurs, en fait, qu'on ne voit plus, qu'on ne recherche pas. Et du coup, la situation fait que on n'avance pas et on reste avec des différences qui nuisent aux femmes. Donc on n'est pas forcément dans une... Moi, ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a pas forcément une volonté de nuire, même si dans certaines entreprises, ça peut être le cas. On peut tomber sur des managers qui ne veulent pas de femmes sur des postes à responsabilité, où on peut avoir vraiment de la discrimination aussi au cours de la grossesse, parce que ça angoisse, parce que faut remplacer la personne, parce que voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui existent. Mais dans la majorité des entreprises dans lesquelles j'interviens, je m'aperçois que c'est pas volontaire et c'est plutôt positif, mais c'est aussi un pendant un peu négatif dans le sens où si on fait pas cette recherche, si on pense que tout va bien, et ben on fait plus d'efforts. Donc la situation en fait elle progresse pas parce qu'on voit pas les choses. Si on voit pas les choses, on peut pas les résoudre en fait.
Vous avez raison.
Alors que la discrimination, quand elle est affichée, on peut plus facilement, j'ai envie de dire, on la voit, elle est visible, on peut plus facilement se battre. Mais quand, en fait, c'est invisible, quand on voit pas, quand on sait pas quoi faire pour améliorer la situation, ben, c'est compliqué. Voilà.
Eh ben, on vous remercie pour vos réponses et pour votre participation.
Ben, j'espère que vous allez réussir à faire quelque chose qui vous convient au niveau de l'enregistrement, que vous allez pouvoir mettre en lumière ce que vous souhaitez mettre en lumière. En tout cas, c'est une bonne initiative de parler de ce sujet.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous avez apporté beaucoup de choses. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci encore à Coralie Fletti d'avoir répondu à nos questions.
Voilà qui remet en question notre index d'égalité. Il faut dire que les stéréotypes ont la peau dure. Peut-être que Mélissa va nous expliquer pourquoi.
Eh oui, l'école a sans doute conservé pendant longtemps les stéréotypes de genre. Le système scolaire a longtemps été différencié au niveau des enseignements pour les filles et les garçons dans les disciplines manuelles comme générales. On commence à voir des écoles non mixtes en France au début du XVIIIe siècle. On donne aux jeunes hommes l'apprentissage du dessin linéaire et aux jeunes filles celui de la couture. Cette répartition dure jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe et au XXe siècle, les filles continuent toujours à s'exercer dans des activités domestiques comme la couture, la cuisine, les soins du ménage et de la périculture. Et j'en passe plein d'autres. Et puis les garçons restent dans l'univers de l'agriculture ou de l'industrie. Comme exemple intéressant, nous avons l'enseignement professionnel avec Elisa Lemonnier, qui est considérée comme la fondatrice de l'enseignement pro pour les filles. Elle crée à Paris une première école en 1862. Elle propose des cours généraux, mais aussi des spécialités diverses comme le commerce, la couture, la comptabilité et d'autres options de genre. Pour elle, c'est une manière d'offrir aux filles un apprentissage spécifique, mais hélas, la filière est peu à peu mise aux oubliettes parce que débouchant sur des métiers peu attractifs et très mal payés, puis uniquement occupés par des femmes. Pour la revaloriser et la restructurer, on crée un CAP dans les années 1920 et de nouveaux BTS dans les années 1970, ce qui sauvera très clairement cette filière professionnelle. C'est seulement en 1983 qu'on arrête de faire cette différenciation avec la loi de 1983 sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. En 2000, une convention pour l'égalité entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, dans le système éducatif poursuit les politiques d'égalité et accompagne les réflexions sur les stéréotypes de genre. En 2017, 84% des filles et 74% des garçons obtiennent le bac, avec donc une plus grande réussite des filles. La même année, 41,5% des terminales scientifiques étaient des filles. Le chiffre est donc en évolution croissante par rapport aux 33% de 1994. Les filles restent représentées dans les disciplines littéraires. Eux, les garçons, sont plus nombreux dans les filières scientifiques. Encore un stéréotype de genre tenace accordant aux hommes un don supposé plus grand pour les maths et aussi dans les disciplines scientifiques, alors que les filières pro ou techno sont plus réservées pour les femmes. Dans notre filière, les métiers de la mode et du vêtement, où l'on apprend entre autres la couture, il y a encore presque exclusivement des filles ou un, deux garçons par promotion seulement.
Il semblerait que la mode n'échappe pas aux inégalités entre les femmes et les hommes et que l'on ait encore des progrès à faire pour offrir aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Mais bon, on ne reste pas les bras croisés.
C'est la fin de l'émission, merci d'avoir écouté. Merci à tous nos invités d'avoir répondu à nos questions et merci encore d'avoir écouté l'émission. Au revoir.